Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on va parler cette semaine de pétrole. On en avait déjà parlé, mais comme tout le monde est inquiet de ces hausses de carburant, de regarder un peu quels sont les problèmes et les mécanismes. Et donc, nous avons au bout du fil Eric Cellini, responsable de toute la branche pétrole à la CGT et donc qui travaille aussi chez Total, donc un expert de la question. Bonjour Eric.
Bonjour.
Et donc, on va lui poser les bonnes questions. Alors, Eric, historiquement, on a su quand même prendre des mesures pour ne pas être entièrement tenu par les multinationales du pétrole, pour maîtriser politiquement un peu les affaires en matière, d'une part, d'approvisionnement et d'autre part, de prix du pétrole, enfin des carburants en tout cas. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous dire un peu les expériences et les mesures qu'on a su prendre historiquement ?
Oui, alors bon, effectivement, le pétrole, on en a France, mais les patrons ont toujours plein d'idées. Donc, dès le début du XXe siècle, 1924, le gouvernement et le patronat créent la CFP, la Compagnie Française des Pétroles, et pour garantir effectivement l'indépendance de la France, enfin la garantir, on verra tout à l'heure, mais pas forcément totalement, mais et donc cette entreprise sous capitaux publics, en partie, elle deviendra Total en 1954. Un peu plus tard, on a créé Elf aussi. Cette fois-ci, elle, complètement entreprise publique, en 66, au moment où on a découvert le gisement géant de gaz dans le sud-ouest de la France, autour de Lacq. Et ces deux entreprises ont été, bien sûr, à l'étranger, et se sont accaparées des territoires à l'étranger pour pouvoir exploiter au Moyen-Orient et en Afrique des gisements pétroliers. Après, bon, l'histoire a continué et le capitalisme ayant horreur de voir des bénéfices lui échapper, ben, en 2000, Elf est absorbé par Total, hein, et l'État se désengage complètement. Et aujourd'hui, dans le groupe Total Energy, qui est issu de cette fusion, la Caisse des dépôts n'est plus actionnaire que de façon très minoritaire. Mais bon, je dirais que l'expérience de développement à l'étranger, le champ de Lacq étant arrivé à la fin de sa vie, s'est poursuivi. Et donc, bon, par exemple, Total est aujourd'hui très très implanté dans le Golfe, hein, pour le gaz, notamment au Qatar. Hein, et donc ça fait l'actualité en ce moment, et puis c'est développé également en Russie, sur le gaz russe en Sibérie.
Voilà. J'avais une question là-dessus, parce que il y a quand même le moyen d'échapper à la mainmise des multinationales. J'avais souvenir qu'on la France avait signé un contrat d'État à État avec l'Algérie, par exemple, pour échapper au poids des multinationales. Est-ce que cette idée-là, elle a complètement disparu aujourd'hui ?
Échapper au poids des multinationales, pas vraiment, puisque en fait, l'État n'est pas vraiment impliqué, notamment dans toutes les infrastructures de transport et d'importation de produits. Donc, même si on signe des accords d'État à État pour l'approvisionnement, à la fin, il y a toujours les multinationales qui viennent se greffer dans le circuit, et notamment Total, qui est très implanté dans les infrastructures de liquéfaction de gaz et de regasification, Et puis on a aussi GDF qui était très implanté là-dedans, mais qui a été lui aussi vendu au privé. Hein, et donc GDF Suez aujourd'hui est une entreprise complètement privée.
Donc on a créé les conditions d'être dépendant finalement, puisqu'on a politiquement tout fait pour laisser les multinationales faire la pluie et le beau temps. Est-ce que je peux le résumer ainsi ?
Ah ben oui, clairement aujourd'hui, et on voit les conséquences auxquelles ça nous amène aujourd'hui. C'est-à-dire que même si ces entreprises, effectivement, ont toujours des relations très étroites avec les États parce que elles assurent l'approvisionnement en énergie du pays, elles sont quand même dans une logique de rentabilité.
D'accord. Alors il y a deux problèmes en fin de compte. Il y a le prix du carburant à la pompe, mais aussi la faculté qu'on a ou qu'on n'a pas de transformer ce pétrole en différents produits, dont les carburants, puisqu'on a tendance à parler que de l'approvisionnement en global et que du prix à la pompe, mais entre-temps, il faut bien le raffiner et le transformer, ce pétrole brut. Est-ce qu'on a toujours l'outil qu'il faut, ou est-ce qu'on a aussi cassé l'outil de raffinage ? On en est où en France là-dessus ?
Clairement, là, en 15 ans, on a détruit la moitié de nos capacités de raffinage. Hein, on a fait disparaître depuis 2010 d'énormes quantités de production. Hein, Total, en fait, a arrêté de raffiner du pétrole dans beaucoup de structures. Mais il y a également Shell qui a fermé ses infrastructures. Et puis ExxonMobil qui est en train de qui les a vendus pour l'instant, mais bon, on ne sait pas à quelle sauce les usines vont être mangées par les repreneurs. Donc clairement aujourd'hui, on a plus la capacité de couvrir l'ensemble des besoins français en produits raffinés sur notre sol, et on est obligé d'importer. Voilà. Et donc on est à la fois tributaire des importations en pétrole brut, mais également tributaire des importations en produits raffinés de façon très importante.
Alors j'avais un chiffre, je ne sais pas s'il est bon en ordre de grandeur, 56% du gazole consommé en France est en réalité importé.
C'est ça, c'est à peu près ça. Hein, on est aujourd'hui avec une capacité de production aux alentours de 40 millions de tonnes, mais bon, avec les aléas effectivement de disponibilité des outils, parce que là aussi on pourrait critiquer effectivement le manque d'entretien de tous ces outils et donc le fait qu'ils ne produisent pas les quantités qu'ils seraient en droit de pouvoir produire. Et puis pour une consommation globale qui est entre 60 et 70 millions de tonnes. Donc on importe beaucoup, on exporte un peu, mais sur le carburant proprement dit, on est déficitaire à la fois en gazole et aussi en essence.
D'accord. Donc on a vu qu'on avait eu les moyens à une époque de maîtriser l'approvisionnement, on a tout refilé au privé, globalement. Et qu'au niveau de l'outil de transformation, qui est en l'occurrence l'outil de raffinage en France, on a aussi abandonné globalement, en tout cas pour moitié, la capacité à travailler, à transformer nous-mêmes en carburant. Alors j'en viens à cette formation des prix. Comment ça marche ? Puisqu'effectivement, c'est la question qui inquiète toute la population aujourd'hui, ça marche comment la formation des prix ? Est-ce qu'on a la transparence ? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on peut savoir ou ne pas savoir ? Qu'est-ce qu'on nous cache sur la transformation des prix ?
La formation des prix, elle est purement spéculative, clairement. C'est aujourd'hui, c'est le marché, hein, avec un grand L et un grand M, c'est-à-dire que on camoufle derrière ces deux mots l'influence de toutes les institutions financières, enfin et les fonds de pension et autres. C'est le marché qui fixe le prix. Le prix n'est en rien en corrélation avec son réel coût de revient, le prix du produit. Et donc on est face à un système qui, comme pour l'électricité d'ailleurs, est complètement complètement hiératique et qui réagit plus à l'environnement économique et géopolitique que à la réalité économique du coût de revient des produits.
Mais toi qui travaillais chez Total, est-ce que à l'intérieur de l'entreprise, on avait les bons chiffres? Est-ce que Total donne les chiffres des véritables coûts d'accès au pétrole brut et le prix que ça coûte au niveau de la transformation? Est-ce qu'on les a, ces chiffres-là?
Non. Clairement, il y a une boîte noire. On a les éléments comptables des différents établissements, et notamment des raffineries, mais sauf qu'avec une boîte noire qui est la boîte pétrole brut, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel coût de revient réel pour Total est le pétrole aujourd'hui, puisque Total refacture là aussi son pétrole, son propre pétrole qu'il a lui-même acheté, il le refacture aux raffineries au prix du marché. Donc, on le sait, c'est-à-dire il refacture plus cher le pétrole qu'il ne l'a réellement acheté. Et donc, on a c'est le phénomène de... On fait des marges à tous les étages, c'est-à-dire qu'on fait des marges au niveau du pétrole brut, on fait des marges entre le pétrole brut et le raffinage, on fait des marges à la sortie entre le raffinage et le réseau, et on fait aussi des marges entre le réseau et les consommateurs.
D'accord, donc la notion de boîte noire est suffisamment claire. Alors, quand on dit Total, c'est évidemment toutes les multinationales, j'imagine.
Elles fonctionnent toutes sur le même système, oui, c'est clair.
D'accord. Alors, il y a une question qui s'est posée ces jours-ci. Est-ce qu'on peut ou pas, est-ce que c'est faisable de bloquer les prix et d'avoir un prix fixe à la pompe? C'est imaginable ou pas?
Complètement. Complètement. C'est juste une question de volonté politique de le faire. Hein, la réglementation des prix, elle est dans les mains des gouvernements. Hein, ça se fait ailleurs en Europe, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire en France. Donc des prix réglementés, ça se fait même sur certains endroits du territoire français, puisque dans certaines parties outre-mer, les prix sont complètement réglementés et bloqués. Donc là, il y a juste une question de volonté. Mais avec un gouvernement qui est aux ordres des entreprises et des patrons, bien, c'est clair qu'on sait pourquoi ils ne le font pas.
D'accord, donc... Tu es en train de nous dire que dans les pays d'outre-mer, ça se fait. Enfin, les pays d'outre-mer en France, les territoires d'outre-mer en France, ça se fait.
Ça se fait, effectivement. Donc, il n'y a pas de raison qu'en métropole, ça ne puisse pas se faire. Et puis, après, le gouvernement a aussi un autre levier, c'est-à-dire qu'il y a une énorme taxe. Il y a la taxe sur la consommation de produits pétroliers qui a été instaurée pour essayer de limiter la consommation pour des questions soi-disant écologiques, cette taxe-là, le gouvernement peut très bien la faire varier et il l'a déjà fait par le passé, dans un passé relativement récent. Donc il y a aussi moyen, effectivement, de faire en sorte que, même s'il refuse de bloquer les prix et d'imposer des prix aux multinationales, il va lui aussi faire un effort, dire je compense l'augmentation d'un côté par une baisse des taxes de l'autre.
Ok, donc il y a des solutions et on voit que depuis le début de l'interview, tout ce qui est dit, en fait, ça s'est déjà fait. Pour l'instant, c'est surtout la volonté de ne pas faire. Alors, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi sur les stocks stratégiques, puisqu'il y a eu des annonces de fait au niveau international avec l'Agence internationale de l'énergie. On a théoriquement aussi en France nos propres stocks stratégiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça ?
On a les moyens de commencer de compenser une pénurie totale. C'est-à-dire si demain les approvisionnements diminuaient de façon drastique, on pourrait compenser tout ou partie du manque, hein, pendant une période relativement courte néanmoins, puisque c'est de l'ordre de 3 mois, hein, 3-4 mois de consommation. Mais ces stocks-là, aujourd'hui, on en a parlé pour essayer de rassurer la population. Mais je dirais que l'approvisionnement en lui-même, aujourd'hui, on n'est pas du tout en pénurie. C'est-à-dire que c'est pas parce que au niveau du Golfe Persique c'est bloqué que on a arrêté d'approvisionner. Il y a plein d'autres lieux d'approvisionnement qui ne sont pas empêchés. L'Afrique notamment, les États-Unis qui sont des grands approvisionneurs, et puis le pétrole de mer du Nord, on peut continuer à en approvisionner. Et puis tout le pétrole d'Afrique du Nord, d'Algérie, de Libye. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie en tant que telle, et ce qui ne justifie donc à aucun moment l'augmentation de prix que les citoyens sont en train de subir.
Sauf la spéculation
qui réagit aux événements géopolitiques, comme je le disais au début, et qui réagit de façon importante, et qui, je dirais que beaucoup y voient une opportunité pour se faire encore plus de marge.
Oui, j'ai compris l'expression que tu n'as pas citée, donc se faire beaucoup d'argent. La dernière question qui n'est pas la plus petite, en tant que spécialiste des questions du pétrole, qu'est-ce que tu comprends, toi, de cette guerre avec l'Iran ?
Tout à fait. Deux protagonistes, Israël et les États-Unis, et au passage, les États-Unis sont les déclencheurs de guerre depuis, à travers le monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, quasiment exclusivement. On se rappelle des guerres en Afghanistan, en Irak, même en Somalie, en Libye, enfin bon, j'en passe des meilleurs. À chaque fois, il y a une notion effectivement de réappropriation par les multinationales américaines de ressources qui avaient souvent été nationalisées, comme c'est le cas en Iran. Et puis, moi, j'y vois un autre aspect, c'est-à-dire que l'Iran était un des fournisseurs principaux du pétrole pour la Chine. Et donc là, on a typiquement la réaction d'un impérialisme par rapport à un autre, ces deux impérialismes se menant aujourd'hui une guerre énorme sur toute la planète, à la fois économique, mais les États-Unis, eux, pensent que l'économie, ça suffit pas et qu'il faut aller jusqu'à la guerre. Donc, leur intervention au Venezuela, aussi bien que celle en Iran, effectivement, est faite aussi pour mettre en difficulté la Chine dans ses approvisionnements de pétrole. Donc, le pétrole reste effectivement l'élément essentiel qu'il faut regarder dans ce conflit.
Merci Eric pour ces éclaircissements. Alors, on a eu beaucoup d'explications. On ne fait pas une interview très longue puisque la qualité du son n'est pas extraordinaire. Et on te remercie de nous avoir donné tous ces éléments.
Ben, je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt. Bonne journée.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.